Bonjour Tiphaine, et de notre côté nous terminons aujourd'hui notre série sur l'édition et les éditeurs.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. On dit souvent qu'une collection, c'est un homme ou une femme, et l'on pourrait en dire autant des maisons d'édition, tout du moins à leur début. Cette semaine, en écho au salon Livre Paris, qui se tenait le week-end dernier dans la capitale, nous avons voulu revenir sur le parcours d'une génération d'éditeurs, celle de la seconde moitié du XXe siècle, qui a vu apparaître un certain nombre de petites maisons, lesquelles ont fait, à leur échelle, l'histoire de la littérature. Lundi, nous sommes ainsi revenus sur le parcours de Jean-Jacques Pauvert, qu'on a souvent comparé pour avoir inventé les œuvres complètes de Sade, à l'éditeur Poulet-Malassi, qui avait en son temps édité des poèmes de Baudelaire jugés immoraux. Mardi, nous avons raconté l'histoire des éditions de Minuit, incarnées successivement par Vercors et Pierre Lescure, puis par Jérôme Lindon, avec aussi Alain Robbe-Grillet. Enfin, hier, au cours d'une émission enregistrée donc au Salon Livre Paris, c'était dimanche dernier, Tiphaine Samoyot nous a parlé de Maurice Nadeau, critique littéraire et éditeur. Et aujourd'hui ? En clôture de notre semaine, et pour parler plus généralement des grands moments qui ont marqué la vie du livre en France depuis le milieu des années 70, nous sommes avec vous, Olivier Bessard-Banqui, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes professeur des universités en charge des enseignements d'édition et d'histoire de l'imprimé au sein du pôle des métiers du livre de l'université Bordeaux-Montaigne. Alors on vous doit deux ouvrages sur l'édition. D'abord L'industrie des lettres, réédité en 2012 chez Pocket avec une préface de Pierre Jourde, et puis aussi La fabrique du livre, l'édition française au XXe siècle, publiée en 2016 aux presses universitaires de Bordeaux et du Lérault. Mais commençons peut-être par préciser que vous avez vous-même longtemps travaillé dans l'édition et que vous refusez les discours convenus sur ce qui serait aujourd'hui la mort du livre. Le livre vous paraît à vous bien vivant.
Il est effectivement très vivant. Les chiffres d'affaires de l'édition sont là pour rassurer, même si effectivement toutes ces dernières années nous avons vu, sensiblement quelques baisses apparaître du fait essentiellement, me semble-t-il, de la crise. Mais il y a toujours des lecteurs passionnés, parce que le livre au fond c'est un objet qui demeure un objet fort et qui suscite des engouements, des attachements, des passions, des folies. Et puis, je le vois justement avec nos jeunes que nous formons, qui veulent devenir libraires, qui veulent devenir éditeurs. Je le vois, beaucoup ont découvert la lecture par Harry Potter et par des séries de ce genre et ont encore aujourd'hui une passion très forte pour le livre.
Est-ce qu'ils lisent comme leurs aînés ?
Non, ils ne fonctionnent pas, ils ne vivent pas ces lectures de la même manière. Effectivement, ils sont beaucoup plus dans des lectures de divertissement passionnel. Et donc, souvent, ils viennent là par des attachements à des types d'écriture, évidemment, tout ce qui est lié à la bande dessinée, les mangas, la science-fiction, etc. On pourrait évoquer un peu tous les genres et les sous-genres.
La littérature de genre, beaucoup plus que ce qu'on appelle la littérature générale.
Tout à fait. Faut-il le dire, il demeure, me semble-t-il, très bon public souvent. Et en vérité, je crois que des personnes avec un peu de bagou qui savent leur présenter à l'occasion certains titres ou certains auteurs déclenchent chez ces jeunes des curiosités ou suscitent des curiosités. Et on le voit notamment par les défis maintenant qui sont lancés sur Instagram par des influenceurs, comme on les appelle. C'est-à-dire, on voit tout d'un coup quelqu'un à Vesoul dit « Découvrons Jules Verne » et on voit des centaines, pour ne pas dire parfois des milliers de jeunes, qui se rendent en librairie ou ailleurs pour aller justement découvrir Jules Verne.
Il faut que ça passe par le jeu alors, il faut que ce soit ludique.
Oui, et il faut insister non pas sur la richesse ou la nécessité de connaître ces classiques, mais beaucoup plus sur les surprises et les fantaisies et les charmes qu'ils pourront y trouver, bien sûr. Et on le voit très bien, ils ont à l'occasion des passions pour Jane Austen ou des fois de manière plus étonnante pour Guy de Maupassant. Quand nous faisons passer les entretiens, quand nous sélectionnons nos élèves, nous les faisons parler de leur passion, de leur goût, de ce qui les lie à la lecture. Et nous découvrons qu'en fait, non, ils ont toujours des emballements, des engouements, mais c'est souvent lié, voilà, au charme, au plaisir qu'ils ont pu y trouver, et ils ne viennent peut-être plus vers d'un côté la littérature ou de l'autre les essais, comme effectivement les gens de la génération du baby-boom pouvaient encore y venir.
On entend beaucoup dire que la littérature française serait devenue élitiste, ennuyeuse, yaourtisée. Ce n'est pas votre avis?
Oui, non du tout. Je pense que la production aujourd'hui est tellement vaste. Nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il y a dedans de très belles choses. Nous avons toujours de très grands écrivains comme Pierre Michon ou beaucoup d'autres. Et puis nous avons effectivement une production qui est peut-être plus légère. Et donc, j'allais dire, chaque lecteur est tout à fait à même, probablement, avec l'aide du libraire parfois ou de la bibliothécaire, ou simplement sur j'allais dire les suggestions de quelques amis, d'aller trouver ce qui peut convenir. Donc non, pour moi la production, elle est plus variée que jamais, et effectivement elle comporte ou elle contient le meilleur comme le pire.
Alors ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que le métier d'éditeur n'est pas moins beau aujourd'hui qu'hier. C'est la pratique de l'édition qui a beaucoup évolué, et aussi l'environnement du livre, à commencer par l'environnement médiatique. Écoutez.
Et oui, bonsoir à tous. Voici donc la 724e et dernière émission d'Apostrophe, la première ayant eu lieu il y a 15 ans et demi, le 10 janvier 1975. Donc c'est la dernière émission, et en même temps c'est une première parce que c'est la première fois qu'elle est programmée aussitôt dans la soirée. Émission exceptionnelle par sa durée, plus de 2 heures, par le nombre de ses invités, plus de 80 écrivains, et par la profusion des documents tirés de la mémoire d'Apostrophe. Je ne voudrais surtout pas que ce soit une émission de nostalgie. J'espère au contraire que ce sera la rencontre heureuse du passé et du présent d'un rendez-vous hebdomadaire autour du livre « Ce qu'était Apostrophe ». Apostrophe, 724e émission, la dernière.
La dernière d'Apostrophe de Bernard Pivot. Une émission devait lui succéder, bouillon de culture. Toujours est-il que Apostrophe, née en 1975, le 10 janvier à 21h30 sur Antenne 2, est un événement, la naissance de cette émission. Et vous montrez dans votre livre, Olivier Bessard-Banqui, à quel point cet événement médiatique a changé le paysage du livre et de l'édition en France.
Oui, c'est-à-dire que cette émission est arrivé à point nommé pour offrir une chance à beaucoup d'auteurs de pouvoir toucher un très vaste public. Je crois que le caractère agréable de Bernard Pivot a beaucoup fait pour le plaisir des personnes d'être là, et donc les Français en masse sont allés devant leurs petits écrans pour regarder ce qui était donc un talk-show à partir de livres qui étaient publiés. Donc la littérature a été beaucoup évoquée sur le plateau, mais c'était évidemment un plateau où apparaissaient aussi beaucoup d'autres auteurs. Donc,
et c'est là où c'est important de noter que, par exemple, le premier sujet d'Apostrophe n'était pas un sujet littéraire. Le premier sujet, c'était « Les avocats n'ont-ils pas souvent bonne conscience ?» Et c'est là où Apostrophe, finalement, qu'on voit rétrospectivement comme une émission littéraire de qualité, était une émission où on ne parlait pas que de littérature. Et ça, c'est peut-être important de le souligner dans l'évolution, justement, de l'écosystème du livre.
Oui, Bernard Pivot essayait de regarder un peu quels étaient les sujets dans l'air du temps ou ce sur quoi les éditeurs publiaient. Et donc, évidemment, pour constituer son plateau, il était un peu obligé de trouver le moyen de pouvoir rassembler des personnes. Et les mauvaises langues avaient aimé à ironiser en disant que si Marcel Proust était revenu des enfers, en quelque sorte, il eût fallu une émission sur l'asthme ou ce genre de thématique pour qu'on ait pu l'inviter, si vous voulez. Donc, c'est effectivement une émission qui a changé énormément de choses. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné une gigantesque visibilité aux auteurs et aux livres qui étaient là en pleine lumière. Et puis, de fait, elle a hystérisé, en quelque sorte, la vie du livre. C'est-à-dire que les auteurs ont tous voulu, de manière obsessionnelle, aller sur le plateau de Bernard Pivot, sauf Raymond Kous, qui a été très très fâché, ou quelques autres, comme Jack Tuelloy aussi. Et de fait, les éditeurs ont, dans un réflexe presque naturel, cherché à essayer de coller aux programmations possibles d'Apostrophe. Donc Apostrophe a accompagné une sorte de spectacularisation, pour parler un peu à la manière de Guy Debord, une certaine spectacularisation de la vie du livre. Mais on ne peut pas dire qu'il en a été, j'allais dire, le seul agent. Mais il a accompagné, ou il a donné, j'allais dire, une très nette visibilité à la chose. Et le lancement, tout particulièrement, des 10 nouveaux philosophes a beaucoup fâché, Gilles Deleuze, par exemple, qui a beaucoup moqué ce qu'était devenu, effectivement, la vie du livre dans ce contexte.
Est-ce que vous avez, du coup, pour aller au fond de votre pensée, l'impression que la littérature, avec Apostrophe et d'autres choses, devient davantage, pour les éditeurs, un enjeu d'événement, un enjeu événementiel, et qui donc influe sur les ouvrages qu'on choisit de publier? Est-ce que c'est ça, finalement, que vous avez envie de dire? Ou est-ce que c'est caricatural de
dire? Non, parce que je pense que depuis le 19e siècle, ce mouvement-là avait déjà été très très bien amorcé. Bernard Grasset, le premier, a cherché à faire croire qu'il avait été, en quelque sorte, le grand Manitou, qui avait fait de la littérature un événement. En vérité, on le voit déjà dès la fin du 19e siècle, et les titres les plus fameux de Zola, qui avaient été lancés bien après ses premiers succès avec L'Assommoir et Germinal, étaient déjà devenus des événements.
Aussi Radiguet.
Radiguet, mais ça c'est Bernard Grasset effectivement qui l'a lancé. Donc vous avez tout à fait raison, il y avait déjà eu ce mouvement-là. Non, je crois que ce qui s'est un peu, accru dans cette période qui est celle de Bernard Pivot, c'est beaucoup plus, une nouvelle manière de considérer la littérature comme étant une production qui doit être liée à une thématique. Et alors, ça, je dirais qu'aujourd'hui...
Est-ce qu'il est journaliste et pas critique littéraire de
tout
formation?
Tout à fait. Il veut au fond que son plateau soit beau et que, si possible, les échanges autour de la table soient vigoureux, animés. Et donc, on peut dire, en regardant la production d'aujourd'hui, que le pli a été pris et que bien souvent... si l'on se demande parfois pourquoi tel titre ou tel autre a été publié, c'est simplement parce que cela permet de traiter, je ne sais pas, de l'anorexie ou d'une autre question. Et on peut déjà dire, sans trop se tromper, que cet auteur, quelle que soit la qualité du texte produit, en tout cas, cet auteur pourra être invité à l'occasion d'une table ronde ou de quelque chose sur l'anorexie ou une autre thématique.
La FNAC aussi apparaît à ce moment-là. Est-ce que ça change quelque chose dans l'environnement de l'édition?
Oui, la FNAC a changé beaucoup de choses parce que la FNAC en quelque sorte a rompu avec le modèle de la librairie traditionnelle, qui était un modèle encore un peu austère, souvent jusque dans les années 60-70. Et la FNAC, elle a imposé le libre service. Donc elle a, là encore, on ne peut pas dire qu'elle a créé quelque chose, mais elle a accompagné un mouvement qui était socialement remarquable.
Le libre-service, ça veut dire qu'on n'a plus le truchement du libraire qui va vous conseiller, et puis on n'a plus honte, entre guillemets, d'acheter ce qu'on a envie d'acheter, parce qu'il n'y a pas à le demander à quelqu'un d'autre, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Et puis même, on pouvait se mettre par terre, prendre des bandes dessinées. C'était inconcevable chez un libraire d'une sous-préfecture, où on se serait forcément fait sévèrement tancer si on avait eu cette tentation, j'allais dire, en quelque sorte, de se croire dans un café.
Tout à l'heure, vous avez cité le nom de Jack Tuelloy. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu, c'est peut-être un peu anecdotique, mais qui était ce personnage qui, avec Jean Edernallier, a une activité vaguement terroriste, de manière gentiment terroriste, mais quand même.
Alors, je peux d'autant mieux en parler que les éditions Séguier sont en train de préparer l'édition d'un écrivain bâillonné, qui est un manuscrit donc toujours inédit pour l'instant et qui a été déposé à la Société des gens de lettres. Jack Tuelloy, c'est un écrivain un peu fou, enragé, persuadé d'être un génie, qui, après avoir vainement cherché à être publié, a réussi a donné un texte chez Gallimard sur l'Inde, juste après le succès de Papillon, donc qui était un peu le récit de son voyage en Inde, un peu folklorique, hein, dans un combi Volkswagen. Chez Grasset, il a donné un texte sur une autre de ses équipées dans les Amériques, et à partir de là, il a été un peu... il avait très mauvais caractère, il était un peu éruptif et incontrôlable, donc il s'est fâché au fond avec tous ses éditeurs, et à partir de là, il est entré dans un mouvement de révolte et d'insoumission, et il s'est dressé avec Jean Édernalier et quelques autres contre le pouvoir des éditeurs, donc au cœur des années 70, en 75 tout particulièrement. Donc effectivement,
cette année charnière,
voilà, une année très importante, et donc il est allé, j'allais dire avec quelques autres, mais déposer des bombinettes ici ou là.
Il a quand même brûlé l'escalier de Françoise Malégeori, ça.
Oui, tout à fait, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il y a peut-être d'autres faits que l'on pourrait peut-être lui imputer, parce que d'autres paillassons ont brûlé, si l'on peut dire, notamment celui de Bernard Pivot, également celui de Jean Dutour, etc. Enfin bref, pendant quelques années, il a été effectivement une sorte de terroriste sympathique, mais quand même un peu effrayant.
Il a arrosé de ketchup Michel Tournier.
Il a aussi arrosé.
Alors c'était un écrivain qui l'appréciait particulièrement.
Oui, tout à fait, mais c'est parce que Michel Tournier venait, si je ne m'abuse, de recevoir la Légion d'honneur, et pour lui,
il l'avait accepté.
Voilà, et pour lui, un écrivain n'avait évidemment pas du tout à se livrer à ce type de, je sais pas, de pitrerie ou de singerie, et pour lui, un authentique écrivain devait être comme lui, parce qu'il était très narcissique et très autocentré, il devait être comme lui, un enragé, un homme avif, qui ne devait en quelque sorte que s'adonner à son vice qui était celui de l'écriture ininterrompue pour crier une sorte de rage.
C'est une anecdote ça, ou c'est le symptôme d'une époque aussi, l'émergence de ces personnages-là?
C'est tout à fait le symptôme d'une époque, parce que Jacques Tulloy comprend très bien, avec Jean Édernalier et quelques autres, que l'édition est en train, dans ces années post-68, de devenir une édition de plus en plus commerciale, ou pour le dire autrement, une édition où la dimension économique du livre l'emporte de plus en plus nettement sur la dimension culturelle du livre. Et donc, on ne peut pas dire que Jacques Tulloy est d'abord mu par cette espèce d'aigreur face à cette évolution éditoriale, mais assurément, il la perçoit très bien, et il la combat, il l'attaque, il la moque, et il la fait ressortir, il en fait un débat.
Sur France Culture, nous parlons de l'évolution de l'édition au moment des années 70 où, vous nous le dites, Olivier Bessard-Banqui, il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans les années 60, vous considérez que le livre est encore roi, et la décennie suivante, c'est la décennie d'un basculement. Comment le qualifier, ce basculement?
Ben, petit à petit, au fond, les maisons traditionnelles qui avaient toujours eu des éditeurs au nez fin, qui cherchaient des textes de qualité pour un public plus ou moins vaste, avaient aussi des collections qui étaient souvent des collections d'expérimentation. Le Seuil avait eu le collectif Change après la série telle quelle. Beaucoup d'éditeurs, y compris Robert Laffont d'ailleurs, avaient des séries un peu, si vous voulez, de laboratoire.
Qui se vendaient?
Qui se vendaient, non, mais qui souvent, bon, à l'occasion, on pouvait quand même, chez Gallimard par exemple, il y avait Le Chemin de Georges Lambrix, qui à l'occasion donc pouvait révéler des auteurs comme Le Clésio et d'autres qui pouvaient décrocher des prix littéraires. Et puis, je vois que mon ami Tiphaine Samoyo est venu vous parler de Maurice Nadeau, mais Maurice Nadeau lui aussi, en quelque sorte, j'allais dire, ici et là, donc, continuait de soutenir, de porter une littérature comme celle de Georges Perec, par exemple, très 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 importante, mais qui, sur le plan économique, n'était pas forcément toujours des réussites fracassantes. Et précisément, dans ces années de crise des années 70, à partir donc des difficultés économiques après 73-74, bah, petit à petit, ces maisons se sont une à une, au fond, débarrassées de toutes ces séries d'avant-garde. Et ce qui est apparu, avec aussi l'effondrement de 10-18 anciennes manières, si vous voulez, ce qui est apparu nettement, c'est au fond la fin d'un moment, disons, d'un soutien de la part la plus fine d'une culture délicate pour verser vers une autre forme d'édition plus décomplexée, comme on pourrait dire aujourd'hui, où évidemment, donc, la part plus commerciale et plus agressive a nettement pris le dessus.
Alors, le parcours de Philippe Solers est peut-être symptomatique de ce glissement de l'expérimental vers de la littérature, disons, de création, puisque lui, au seuil, à un moment donné, va quitter cette littérature expérimentale en passant chez Gallimard.
Tout à fait. Alors, on peut dire que Philippe Solers, je ne voudrais pas parler à sa place, mais me semble-t-il, avec beaucoup d'intelligence, a bien senti ce qui se passait et s'est adapté un peu à cette nouvelle donne. Et donc, il a su effectivement réussir sa mue à ce moment-là, en tout cas, puisqu'avec son roman « Femme » chez Gallimard, il a eu effectivement grand succès. On peut dire qu'un
peu... Parce que c'est le retour du biographique dans l'œuvre de Philippe Solers, qu'il avait quitté depuis son premier roman pour justement des œuvres davantage expérimentales.
Comme d'ailleurs, j'allais dire, non pas ses amis forcément, mais en tout cas ceux qui étaient autour de lui... Dans ces mêmes écritures, hein, Rob Grillet par ici, une Nathalie Sarraut ou une Marguerite Duras par là. Donc, effectivement, il avait très bien saisi qu'il y avait, en quelque sorte, dans l'air du temps, cette glissade qui avait été peut-être aussi appelée par le Roland Barthes par Roland Barthes. Bref, il y avait effectivement là un mouvement, mais plus généralement, je pense, la nouvelle puissance des médias de masse qui avait porté le livre vers des publics très vastes imposait, en quelque sorte... si vous voulez, aux auteurs d'user d'une langue et d'aller vers des manières d'écrire qui seraient forcément plus ouvertes. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de Bernard Pivot tout à l'heure, il a à un moment, lui aussi, eu un échange très fort avec Jean Ricardou, par exemple, dont il a dit devant tous les téléspectateurs, enfin, qu'il continuait un peu de manière... j'allais dire grave, d'écrire dans une langue qui n'était pas forcément la plus ouverte, etc. Je pense que Philippe Solers, comme beaucoup d'autres, ont senti que dans ces années de triomphe des médias de masse, au fond, les auteurs étaient un peu invités à s'adapter à cette nouvelle donne et à produire des ouvrages qui seraient aisés à soutenir, à porter, à vendre, à défendre dans ce nouveau contexte.
Aujourd'hui, la littérature dite expérimentale n'existe plus en tant que telle, n'est plus publiée.
Ah si, tout à fait, mais plus tout à fait comme avant. Aujourd'hui, bien sûr, elle demeure, j'allais dire, comment dirais-je, le domaine de quelques maisons très belles comme POL qui se trouvent être des maisons
vraiment
rattachées.
Expérimentales.
À l'occasion, oui, je ne sais pas, Nathalie Quintane, Olivier Cadio me semblent être des auteurs que l'on peut difficilement ranger ailleurs que dans ces petites boîtes, s'il en faut. Après, chez POL, évidemment, il a fallu publier aussi d'autres auteurs beaucoup plus grand public pour les simples motifs que POL, sans doute lui-même, a aimé ces différentes littératures et que par ailleurs, il a eu le souci tout à fait normal, logique et compréhensible de vouloir, en quelque sorte, garantir à sa maison une assise financière. On ne peut pas publier que de la littérature expérimentale et des poèmes.
Le livre n'est pas un produit comme les autres. C'est une création de l'esprit qui ne saurait être soumise sans une protection, en tout cas une régulation particulière, à l'unique loi du marché. Et la question posée devant vous, à travers cette loi, est de savoir si notre pays entend maintenir vivante et forte une grande tradition artistique de création, ou si au contraire, notre pays choisira la voie de la facilité et de la routine. L'enjeu du débat d'aujourd'hui ne réside pas seulement dans la discussion, l'amendement ou l'adoption d'un projet de loi, qui n'est qu'un projet de loi parmi d'autres à proposer. La question au centre de notre débat, c'est l'avenir de la création littéraire en France.
Connu évidemment Jack Lang, c'était en 1981 la loi sur le prix unique du livre adoptée à l'Assemblée. Quel a été, Olivier Bessard-Banqui, l'effet de cette loi sur la vitalité du secteur de l'édition en France?
Il a été extraordinaire, c'est-à-dire que cette loi a en quelque sorte empêché les grandes puissances d'argent de réussir en quelque sorte à tuer par une concurrence que l'on peut dire en partie déloyale, les toutes petites librairies qui n'auraient jamais eu les moyens d'acheter avec les mêmes remises de grosses quantités de livres.
Et de fait, vous avez remarqué en voyageant à l'étranger que... Il y a moins de petites librairies dans d'autres pays.
Il y a même des endroits où il n'y en a quasiment plus, évidemment. Donc, je pense que la loi Lang a eu énormément de vertus et elle a aussi beaucoup mobilisé les libraires qui ont compris que si, en tout cas, il n'y avait donc pas de concurrence sur le plan économique possible, puisque partout les livres seraient donc désormais obligatoirement au même prix, dans la limite éventuelle de cette petite remise de 5% possible, alors la concurrence se ferait de toute façon sur d'autres plans. Donc ça les a quand même beaucoup mobilisés pour être obligés de lutter, notamment donc contre la FNAC et d'autres grandes surfaces culturelles. Évidemment, cette loi les a en grande partie protégés, aidés, soutenus, mais Jérôme Lindon, les éditions de Minuit et quelques autres se sont aussi beaucoup mobilisés pour que d'autres biais, notamment donc par celui de la création de l'ADELC, l'association donc pour la défense de l'édition et de la librairie de création, d'autres mesures, d'autres biais ont été adoptés pour accompagner en quelque sorte les libraires dans cette espèce d'évolution vers ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui beaucoup plus une animation culturelle par les livres et autour des livres.
Animation culturelle qui vient remplacer la figure du grand écrivain qui précédemment exerçait son magistère sur tous les domaines de la société française. Et c'est symptomatique qu'on soit là en 81, puisque c'est également à ce moment-là que Sartre meurt, ou en 1980, je ne me souviens plus exactement de la date. La mort de Sartre, c'est la fin de ce type d'écrivain-là.
Oui, c'est ce qu'il semble à beaucoup. Alors, il nous reste encore à ce moment-là des personnes comme Julien Gracq ou quelques autres qui peuvent apparaître encore comme des grands écrivains, mais effectivement un peu retirés, ou même Michel Tournier d'ailleurs, enfin un peu isolé, un peu ermite. Mais bien sûr que à partir du moment où une société du spectacle s'est imposée, il a donc bien fallu que les auteurs, en quelque sorte, apprennent à aller dans les studios et à se montrer autrement. Ce qui n'a pas empêché un écrivain comme Pierre Michon, je pense, de... en quelque sorte de récupérer une partie de cette mythologie du grand écrivain et de savoir en jouer, par exemple notamment en donnant des lectures très fortes de ses textes dans des moments qui ont été perçus.
Ça n'est pas un auteur de best-seller tout de même, comme l'était Sartre en son temps.
C'est vrai, mais vous avez noté que par exemple avec Les Onze, il a quand même réussi à vendre très fortement son œuvre. Et puis Les Vies Minuscules, qui sur le moment n'ont pas été évidemment un best-seller, continue de se vendre, j'allais dire, de manière remarquable en poche aujourd'hui, parce que ce très grand livre est étudié maintenant, tantôt dans les collèges ou les lycées, parfois à l'université. Je pense qu'effectivement, la mort de Sartre a été perçue comme la fin de quelque chose, indubitablement. Mais je pense que, comment dirais-je, nous étions déjà en route vers un nouveau modèle de vie effectivement plus démocratique, où la figure du grand écrivain pouvait à l'occasion être donc remplacée par des auteurs en général, comme le fameux libraire qui était le notable du village avant, lui aussi avait dû en quelque sorte disparaître avec sa blouse pour ouvrir de nouvelles boutiques qui allaient devenir des boutiques avec café, où l'on rencontrerait des auteurs, où il se passerait des choses et où au fond nous aurions, nous collectivement, envie d'aller. Pour le voir, c'est-à-dire il a dû devenir très sympathique le libraire, sinon peut-être que sa boutique allait devenir désertée.
Mais il l'était déjà avant, sympathique le libraire, simplement il l'est de manière plus évidente peut-être encore. Les années 80, c'est aussi un changement capitalistique qui s'opère dans un certain nombre de maisons d'édition, qui va s'amplifier encore dans les années 90. C'est l'émergence de nouvelles maisons comme Actes Sud. Et puis c'est Gallimard, cette grande maison historique de la littérature française, qui évolue aussi. Comment est-ce que vous voyez se recomposer à ce moment-là le paysage de ces maisons ?
Je pense que tout est lié au grand choc de l'effondrement d'Hachette tombé dans l'escarcelle de Lagardère et de Matra. C'est-à-dire que au fond, tous ces éditeurs, qui étaient assez traditionnels encore, ont traversé dans la souffrance les années 70, qui ont été des années de crise. Hachette était particulièrement empêtré dans des situations pénibles, notamment par la presse ou par l'imprimerie, et son actionnariat était complètement émietté, et personne n'a vu venir, j'allais dire, donc cette glissade ou cette chute d'Hachette dans l'escarcelle de Matra. Quand Jean-Luc Lagardère a décidé de remettre Hachette sur pied, évidemment, il a fallu assainir cette très belle entreprise. Et donc, tout ce qui était lié un peu à l'expérimentation, des publications de prestige, tout cela a été impitoyablement, en quelque sorte, gommé ou abandonné, ou en tout cas très limité. C'est Jean-Claude Lattès, lui-même, l'éditeur de Joseph Joffaut, de Patrick Covin, qui s'est retrouvé à la tête de la branche livre. Et donc, c'est lui qui a été imposé à des gens qui dirigeaient Grasset, Fayard et ce type d'entreprise. Donc, ça a été une sorte de choc parce que, évidemment, il y a eu, dès le début des années 80, une réorientation spectaculaire, disons, de la production de cet ensemble. Mais les autres éditeurs faisaient évidemment la même chose pour aller de plus en plus vers le grand public pour essayer de sauver leur économie.
Il y a encore des collections de prestige qui existent, comme la Pléiade, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un type de livre qui est de plus en plus en danger du fait de leur coût de fabrication et du coût de leur prix de vente?
Alors, Gallimard, c'est un cas tout à fait à part. C'est toujours une maison indépendante. C'est même la première des maisons indépendantes. C'est vraiment...
Gallimard a beaucoup racheté aussi.
Gallimard a beaucoup racheté. Gallimard est une très belle entreprise qui a su, réussir stratégiquement à peu près tout et qui donc se retrouve aujourd'hui dans cette situation de possibilité d'exercer, de suivre, d'avoir la politique éditoriale que cette maison souhaite avoir, et donc de se permettre d'avoir effectivement parfois des productions qui ne sont pas très rentables sur le moment et qui se trouvent équilibrées par des ventes très fortes d'auteurs qui sont un peu plus à la mode. C'est toujours le modèle qui a été le sien, puisque après la Première Guerre mondiale, quand vraiment Gaston Gallimard a pris avec son frère le pouvoir pleinement et définitivement, parce qu'il a bien fallu donc en quelque sorte trouver le moyen d'équilibrer les comptes et aller donc chercher des auteurs comme Simenon, comme Joseph Kessel, des auteurs qui pouvaient vendre fort pour contrebalancer, disons, les ventes limitées d'autres auteurs. Alors, pour moi, cette maison est un exemple ou un modèle, et j'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'Antoine Gallimard songe un jour, évidemment, à abandonner ce qui fait le prestige de la NRF. Donc, la Pléiade, puisque vous en parlez, c'est une merveilleuse série qui a une économie très, très particulière, où les coûts de fabrication sont très élevés pour ces volumes, mais dont la forme est quasiment, patrimonialisée de manière presque définitive. On a un peu de mal à imaginer que son aspect change. Alors, peut-être qu'un jour, il faudra... rationaliser cette fabrication pour trouver à faire de sublimes objets peut-être un tout petit peu moins chers à réaliser. Mais en tout cas, pour moi, il ne fait aucun doute que Antoine Gallimard a parfaitement compris, que le premier des capitaux, la première des richesses de cette entreprise, c'est son prestige.
Non, mais il y a le prestige, c'est évident, mais il y a aussi le fait d'investir dans des textes critiques sur la littérature. Et se pose aussi la question, d'ailleurs, de l'édition de sciences humaines, de l'édition de toute cette littérature grise autour de la littérature qui se vend en général très mal. On en est où là?
Alors, le catalogue de la Pléiade, vous parliez d'abord de littérature à noter. Le catalogue de la Pléiade, vous l'avez noté, de plus en plus, lui aussi, s'ouvre vers le grand public. Certains ont un peu glossé. Moi, je crois évidemment que c'est tout à fait intelligent de la part de Gallimard de se dire, puisqu'il y a de grands amateurs de Jean d'Ormesson pour qui c'est un auteur de très grande qualité et qu'il souhaite avoir dans de belles éditions, pourquoi ne
pas leur offrir si ça permet justement d'amener à l'entreprise davantage de liquidités, donc des possibilités pour faire d'autres choses. Donc, pour ce qui est du domaine des sciences humaines, évidemment, là, ce sont encore d'autres questions qui se posent. Gallimard ne m'a jamais semblé être une maison, j'allais dire, parmi les plus en pointe dans ces domaines.
Non, mais par exemple, c'est vrai que dans le Quartier Latin, il y avait des librairies de sciences humaines et elles ont toutes disparu.
Oui. Il faut dire que les universités ont beaucoup, comment dirais-je, créé d'annexes. Je pense à Paris 4 qui a été mon université, où maintenant les étudiants des premiers et second cycles, si je ne m'abuse, deuxième cycle, pardon, se trouvent être dans des annexes qui ne sont plus au Quartier Latin. Donc, j'allais dire, beaucoup des jeunes qui venaient en grande partie acheter leurs livres para-universitaires là, enfin leurs livres d'études, tous leurs livres, maintenant sont dans d'autres quartiers et ne viennent plus forcément fréquenter ces librairies. Mais Joseph Gibert se porte bien, excusez-moi de faire un peu de pub. Et donc, je pense qu'il y a quand même des habitudes très fortes qui ont été prises par des Parisiens qui sont 10 millions, voire des provinciaux de passage. Et donc, il y a encore effectivement, disons, une belle résistance dans ce lieu-là de Paris.
Olivier Messard-Banqui, on va continuer de parler avec vous de l'histoire de l'édition en France depuis les années 70, juste après la chronique de Frédéric Maget.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Frédéric Maget, directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez choisi aujourd'hui de nous ramener sur les bancs de l'école et plus exactement sur ceux des amphithéâtres de l'université.
Pas longtemps, rassurez-vous, le temps d'évoquer, non sans un peu de nostalgie, les découvertes qui jalonnent le parcours d'un étudiant en lettres et sa rencontre notamment avec la littérature de la Renaissance, qu'il est vrai, on ne fait qu'entreapercevoir dans le secondaire. On comprend alors que les choses sont sérieuses lorsqu'on a entre les mains pour la première fois un livre des éditions de Rose, sans doute d'ailleurs. Les auditrices et les auditeurs ont encore sous les yeux en mémoire cette austère couverture grise qui recouvrait les regrets de Dubellay, par exemple. Mais qui a vraiment prêté attention à la marque de l'éditeur? Une gravure aux larges traits, caractéristique des gravures sur bois du XVe siècle, quatre animaux qu'on imagine nécessairement symboliques, qui encadrent un cercle avec au sein quatre poutis qui tiennent un emblème et de part et d'autre deux initiales. Alors en préparant cette chronique, j'ai appris que cet emblème avait été en fait emprunté à un imprimeur genevois du XVe siècle, Jean de Staël, et que ces initiales IS avaient été malicieusement remplacées par celles de la personne qui avait fondé les éditions de Rose, une femme, Eugénie de Rose.
Car l'éditeur, en l'espèce, c'était une éditrice, comme toujours vous nous parlez des femmes, et une pionnière dans ce domaine.
Alors les femmes ont toujours été présentes dans l'histoire du livre et de l'imprimerie. Il y a quelques semaines, Éric Dussert rappelait ici même que Christine de Pizan avait été à la tête d'un atelier qui diffusait ses manuscrits à travers toute l'Europe. L'an passé, le syndicat de la librairie ancienne et moderne avait remis un prix de la bibliographie à Rémy Riménez pour son ouvrage sur Charlotte Guillard, une femme imprimeur de la Renaissance. Comme souvent d'ailleurs tous les métiers qui touchent à l'artisanat, les femmes y ont été associées, souvent avec un père ou avec un mari dont elles reprenaient ou poursuivaient l'entreprise. On peut penser à Madame Dentu, par exemple, au XVe siècle. Mais Eugénie de Rose a été la première à créer sa propre maison d'édition au sens intellectuel, littéraire et commercial du terme. Elle vient de Suisse au départ, Eugénie de Rose. Son père d'ailleurs est éditeur, mais c'est pas du tout à ça qu'elle se destine dans un premier temps, puisqu'elle se destine à la recherche. Elle est d'abord étudiante en lettres et puis très tôt, elle a 24 ans, en 1916, elle vient à Paris pour poursuivre ses études à l'école pratique des hautes études, comme beaucoup de Suisses romands d'ailleurs. Et son domaine de prédilection, c'est la littérature médiévale. Où elle acquiert d'ailleurs assez rapidement une grande notoriété en raison de ses premiers articles assez pointus, notamment dû à la formation qu'elle avait reçue d'Arthur Piaget.
Alors qu'est-ce qui va faire qu'elle va plutôt choisir l'édition que la recherche ou l'enseignement?
C'est vrai qu'avec notre œil contemporain, on se dit qu'elle était destinée à l'enseignement et à la recherche, mais il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, l'université française n'est pas vraiment prête à accueillir des femmes. La première femme agrégée de lettres, c'est en 1912. La première femme docteur ès lettres, c'est en 1914. Et encore, ce sont des exceptions. Il faut se souvenir que la première leçon inaugurale d'une femme au Collège de France, c'est en 1973. Et puis, il y a une opportunité à ce moment-là, parce qu'Honoré Champion, qui était la maison d'édition qui, depuis la fin du 19e siècle, accueillait toute la littérature spécialisée, savante en histoire et littérature, était mort. Et son fils, Édouard Champion, bien connu des bibliophiles, ne s'intéressait pas vraiment à la littérature savante. Et du coup, du jour au lendemain, la place était vacante et beaucoup de philologues ou de chartistes se retrouvaient sans maison d'édition, un peu orphelins. Et c'est là qu'elle a l'idée de de créer une maison d'édition pour accueillir ses propres travaux et ceux aussi de ses collègues. Elle va s'installer chez elle dans un premier temps, et puis ça ne s'invente pas, dans une maison que François Ier avait offerte à Clément Marot, actuellement rue de Tournon.
Et là, c'est le début d'une formidable aventure éditoriale.
Ah oui, absolument, parce qu'elle met alors à contribution toutes ses relations avec les chercheurs du monde entier, et en très peu de temps, elle a réussi à fédérer autour d'elle prestigieux collaborateurs, des historiens, des muséologues, des historiens du livre. Peu à peu, elle étend ses centres d'intérêt. Du XVe siècle, elle passe à la Renaissance française, puis à la Réforme. Et très rapidement, la librairie de Rose devient un des principaux points de ralliement dans le monde des études romanes. Eugénie de Rose est une femme vraiment impliquée dans sa maison d'édition. Elle n'hésite pas à contribuer personnellement aux travaux de recherche, mettant à profit sa propre connaissance des textes. Un de ses faits de gloire, c'est la découverte en Italie du recueil Treprelle, qui réunit 16 sotti, 8 phares, 11 moralités qui jusque-là étaient inconnues, un travail d'édition qui va lui prendre une trentaine d'années. C'est une femme extrêmement forte, il le fallait sans doute pour s'imposer dans ce monde, incisive, parfois dure et injuste, dire ses contemporains, mais elle a vraiment tracé un chemin avec une force qu'on doit lui reconnaître. Après-guerre, la maison d'édition ira en Suisse, retournera en Suisse, où elle poursuit encore aujourd'hui ses activités.
Un mot, est-ce qu'aujourd'hui, Eugénie de Rose a des successrices dans le monde contemporain de l'édition?
Depuis Eugénie de Rose, c'est vrai que le monde de l'édition s'est largement féminisé. Que ce soit des directrices éditoriales, on pense à Thérèse Grémisi, que ce soit des directrices générales, Béatrice Duval qui vient d'être nommée à la tête du livre de poche, ou même des propriétaires de groupes éditoriaux, comme Vera Michelski, présidente du groupe Libella. Elles sont un peu plus rares à avoir créé leur maison d'édition, souvent d'ailleurs avec des choix très forts comme Régine Deforge, Antoine Hennefouque ou plus près de nous Laurence Faron. Mais si je devais trouver une sorte d'équivalent à Eugénie de Rose, il faudrait trouver une éditrice au sens plein du terme, c'est-à-dire qui soit vraiment impliquée dans la conception, dans la commercialisation, dans l'établissement des textes, avec le même souci de la découverte, la même capacité à dépouiller des fonds d'archives. Et de ce point de vue, il y a un nom qui s'impose, c'est celui de Claire Polan. Formée chez Ramsay, Segers, Ferré, Verdier, la petite fille de Jean Polan a créé en 1996 sa propre maison d'édition qui est consacrée aux littératures de l'intime, des journaux, correspondances, littéraires, textes autobiographiques, mémoires inédites d'auteurs du 19e et du 20e. Avec une grande énergie, une grande rigueur, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de Eugénie de Rose, elle met au jour de véritables trésors, comme le journal de Mireille Havec, qui a été salué en son temps par la presse, Catherine Pozzi, Hélène Opneau, dont elle publie le second volume, et je pourrais citer Valérie Larbeau et Jean Polan. Je ne peux qu'encourager les auditrices et les auditeurs à se précipiter chez leur libraire pour découvrir et encourager cette formidable entreprise qui rappelle, si besoin était, que savoir et édition ont toujours partie liée.
Merci beaucoup Frédéric Maget. Je rappelle que vous êtes donc donné pour consigne de parler toujours ici d'une femme de lettres, ce que vous avez fait encore aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ont prévu d'aller se balader du côté de Saint-Sauveur en Puisée, vous les attendez à la maison Colette. À très bientôt. Toujours la compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous évoquons l'histoire de l'édition avec le professeur à l'université de Bordeaux, Olivier Bessard-Banqui. Une histoire qui se fait aujourd'hui non seulement avec les lettres de l'alphabet, mais également avec des zéros et des uns. Je parle bien entendu de l'avènement du numérique qui bouleverse à la fois l'édition et la critique littéraire à ce sujet. On écoute l'écrivain François Bon.
On est trop attaché à des figures extrêmement récentes, et pour nous, là, de figures très marchandes, c'est-à-dire la consommation individualisée d'un livre à quelque étage social ou hiérarchique qu'on soit. Les bibliothèques, même les bibliothèques familiales ou les bibliothèques d'école, c'était pas ça, même dans les années 1930. Donc c'est une figure qui est très récente, qui est liée au livre de poche, et la lecture a toujours été social, ce qui se fabrique dans les cabinets de lecture au 19e, la façon dont les cabinets de lecture sont eux-mêmes se structurent d'après l'endroit où, dans la période post-révolutionnaire, on a encore des clubs de parole et tous ces trucs. les choses par abonnement, les diffusions de journaux, la façon dont toujours les livres se sont prêtés, ont circulé, tout ça. La notion de partage peut paraître plus brutale parce qu'elle prend une extension. Pourquoi elle prend une extension ? Parce que les modes de prescription qui se hiérarchisaient dans la presse, dans la critique, tout ça, deviennent passent par une économie de l'attention, une économie de la recommandation, qui passe par des outils de partage. La critique littéraire n'appartient plus à personne.
La critique littéraire n'appartient plus à personne. On peut à la fois le déplorer et s'en réjouir, Olivier Bessard-Banqui, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a beaucoup changé là.
Ah, nous sommes dans un nouveau monde. Internet a probablement, j'allais dire, amené vers une hyper-démocratisation que nous vivons tous avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, par définition, aujourd'hui, effectivement, tout ce qui se passe sur les réseaux s'avère de plus en plus puissant et susceptible d'amener ici à la lecture de tel ou tel titre, ou au contraire, de décourager, voire de démolir tel autre. Nous avons assisté depuis ces dernières décennies, bien sûr, j'allais dire, à d'étranges glissements dans le domaine de la prescription, tout à fait.
De le domaine de la prescription, ce qui pose la question de la légitimité du fait d'écrire et pour beaucoup d'éditeurs, finalement, l'espèce de graphomanie ambiante n'est pas forcément une bonne chose. C'est difficile de faire le tri entre tous les manuscrits qui leur parviennent.
Alors je pense que les éditeurs, eux, maintenant, ils sont vraiment, j'allais dire, dans une position souvent, très libérale. Hein, c'est-à-dire que, bon, si un texte a un potentiel commercial, dans certaines maisons, ça peut amplement suffire. Bon, dans d'autres, évidemment, il faudra que quand même ce texte ait des qualités en quelque sorte intrinsèques, par ailleurs. Mais ça n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence, si vous voulez, à l'évolution des choses. Et on le voit par exemple avec ce qu'a pu faire une maison comme Michel Lafon, c'est-à-dire que très tôt, ceux qui sont vraiment à l'affût de ce qui se passe sur les réseaux ont repéré sur des plateformes comme Wattpad ou ailleurs, ou même maintenant sur les espaces d'auto-édition sur Amazon, enfin bref, il y a, j'allais dire, 1000 lieux où des choses se passent, et donc les plus fins, les plus rusés, disons les plus soucieux d'une réussite commerciale des éditeurs ont très bien compris qu'au contraire, cela pouvait servir comme un service rendu pour en quelque sorte faire émerger des gens, souvent des jeunes, qui avaient le génie de la débrouille et le sens du buzz, et qui, à partir souvent de textes qui s'inscrivent dans des sous-productions très très caractérisées, pouvaient en quelque sorte aisément les récupérer, les publier en papier et s'appuyer précisément sur ce buzz qui, au fond, suffit à faire vendre tout de suite.
A-t-on découvert des chefs-d'œuvre auto-édités ?
Pas que je sache.
Il y a quand même beaucoup d'exemples dans l'histoire de la littérature de très grands livres qui n'ont pas trouvé d'éditeur ou qui en ont trouvé à leur 50e essai.
Oui. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Je ne crois pas quand même que ça ait été la norme. Il y a eu de graves accidents dans le passé parce que je pense des auteurs pouvaient être mal renseignés, ne savaient pas trop comment faire, ne s'adressaient pas aux bonnes personnes. Mais voyez ce qui s'est passé avec L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui d'ailleurs, ça nous ramène à Droz. Tenez, je n'y avais même pas pensé. La première édition de L'usage du monde a été publiée chez Droz en 1963. Voilà typiquement un chef-d'œuvre qui a commencé une carrière de plus que très modeste et qui, de toute façon, aujourd'hui, a été récupéré en quarto chez Gallimard et qui sera peut-être demain en Pléiade et qui a été inscrit au programme de l'agrégation de lettres il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, je ne crois pas au chef-d'œuvre, j'allais dire, qui aurait échappé à tous les radars. Il y a toujours un moment où les très grands textes rencontrent leurs lecteurs passionnés et ces ambassadeurs-là finissent par placer ce texte à sa vraie situation au cœur de la culture. Donc moi je ne crois pas trop en vérité au texte qui aujourd'hui n'aurait été reconnu comme un grand texte ou un très bon texte par personne.
Le numérique, c'est pas seulement l'auto-édition et la critique, c'est aussi le e-book. Là encore, est-ce que on assiste à une mutation du monde du livre, non seulement parce que l'objet n'est plus le même et que donc on peut pas le manier de la même manière, mais aussi parce que la distribution n'est plus la même, ne passe plus par les librairies.
Oui, alors tout à fait. Je pense qu'il y a, toujours eu parmi les publics des gens pour qui l'objet livre en soi n'est pas important. Vous avez là donné la parole à François Bon, qui est un très bon écrivain.
Qui a commencé à travailler sur ordinateur très très tôt, voilà, au début, au milieu des années 80.
J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Qui a toujours eu ce côté geek et cette curiosité pour tout ce qui pouvait se passer à partir de ces outils, et qui est l'exemple même de l'homme parfaitement dans les textes, et qui en même temps est très à l'aise dans le monde des techniques, et qui a voulu en quelque sorte les récupérer, les utiliser pour voir tout ce qu'il était possible de créer, de faire à partir de là. Donc je pense que tout ce qui se développe dans le domaine du numérique touche en tout premier lieu des gens qui, comme François Bon, ne sont pas spécialement attachés à l'objet livre, mais je ne crois pas, pour ce qui nous concerne, j'allais dire pour l'instant, que cela puisse aller au-delà d'un certain nombre de personnes, somme toute assez limitées par rapport à l'ensemble de la population. Mais personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas ce que sera le rapport des jeunes qui arrivent et aux écrans, et à la lecture, et à, disons, à l'objet livre. C'est difficile donc de se faire une idée de tout cela. Mais ce que l'on peut dire, c'est que, quelle que soit cette forme, peut-être, qui arrive et qui est nouvelle, il faudra bien que les éditeurs trouvent des moyens de faire que cela puisse être rentable. Sinon, évidemment, on peut l'imaginer sans peine, ne vont pas investir massivement dans ces secteurs et vont probablement continuer au maximum à tout faire pour soutenir le papier, qui est, j'allais dire, une économie très très ancienne et solide.
Et la question de la financiarisation de l'édition, c'est un mouvement qui était peut-être d'ailleurs prégnant dans les années 90, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait Jean-Marie Messier à un moment donné qui rêvait de groupes dans lesquels on marierait à la fois des contenus, des éditeurs, alors à la fois de livres mais aussi d'images, de films, et puis la distribution. Là encore, est-ce que quelque chose a changé dans un monde qui est un monde de l'image avant tout, dans un monde où on a peut-être moins le temps aussi à consacrer à la lecture, et où donc il va être plus facile de consommer une série plutôt que de lire un livre?
Oui, alors je pense qu'effectivement, disons, tout ce qui pouvait détourner des productions grand public avant et qui a un peu disparu, disons, dans cette espèce de discrète disparition de la reconnaissance des hiérarchies culturelles qui ont pu, j'allais dire, nous structurer pendant très longtemps. Tout cela favorise la montée, la poussée des productions commerciales grand public, et tout cela sert la cause des entreprises et donc des groupes en tout premier lieu, j'allais dire, qui, sans complexe, cherchent au maximum à répondre à ces attentes ou à proposer, notamment, on a vu récemment donc le succès général de ce qui a été appelé le Feel Good Book, et donc
le livre qui fait qu'on se sent bien
le
quand
livre,
on l'a
lu. Voilà, qui vous apporte des choses et qui effectivement, quand vous le refermez, vous donne l'impression d'aller mieux ou de vous sentir mieux. Et donc, j'allais dire, par définition, plus ce mode de consommation culturelle se développe et plus les grands groupes en profitent et adaptent leur production pour aller à la rencontre de ces publics qui veulent donc des textes très très ouverts. Mais en France, nous l'avons tous noté, par le bas, petit à petit, se créent d'autres structures, d'autres maisons d'édition. Nous n'en finirions pas d'évoquer toutes les plus belles structures de France. Finitude, à Bordeaux déjà, nous ne savons plus qu'en faire. Nous en avons de trop belles tout le temps qui apparaissent et nous en sommes ravis. Monsieur Toussaint Louverture, Finitude, L'Arbre Vengeur. Jadis, il y avait, sur le modèle souvent des éditions de minuit ou de belles maisons de ce genre, Verdier, Tristram, Fata Morgana, Alia, Le Tripode, Le Nouvel Attila, etc. Toutes ces sublimes maisons, et j'en oublie énormément, toutes ces sublimes maisons compensent en quelque sorte, au fond, j'allais dire, les timidités des groupes qui, disons, ne font très souvent que des productions standardisées à destination du grand public. Et de temps en temps, évidemment, ils récupèrent des auteurs qui ont démarré leur carrière chez de petits éditeurs parce que leur nom devenu fameux est un nom qui est devenu vendeur, et ce qui, évidemment, les intéresse pour améliorer l'économie du groupe.
Il y a des maisons qui sont un petit peu dans l'entre-deux, qui sont aujourd'hui de grandes maisons rachetées par des grands groupes comme Gallimard a racheté Vertical, par exemple, mais qui restent sur un type de catalogue qui est un catalogue qui se veut très exigeant, enfin qui se veut exigeant.
Tout à fait. Vous dites entre deux. Moi, excusez-moi, je ne dirais pas entre deux. Pour moi, Gallimard est une maison indépendante qui n'est donc pas dans une obsession de la rentabilité financière à tout craint. Disons que ce n'est pas sa quête, j'allais dire ontologique. Bien sûr que c'est une maison qui doit être rentable pour poursuivre son aventure, mais elle cherche, j'allais dire, à réussir sur un autre plan parce qu'elle sait que ce sont les investissements d'aujourd'hui dans des productions, j'allais dire, de grandes richesses substantielles qui feront la solidité de cette entreprise demain.
Merci beaucoup Olivier Bessard-Banquier. Je rappelle quelques-uns de vos ouvrages. La vie du livre contemporain aux presses universitaires de Bordeaux et du Lérault en 2009, réédité sous le titre L'industrie des lettres chez Pocket en 2012. Et puis un autre ouvrage, La fabrique du livre aux presses universitaires toujours de Bordeaux, mais cette fois en 2016. Et puis par ailleurs, vous avez dirigé et préfacé avec Pierre Jourde une édition classique Garnier d'un livre intitulé Éric Chevillard dans tous ses états. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jordan Fuentes. Demain, vous retrouverez La Compagnie des poètes, ce sera avec Manu Farine. Mais tout de suite, c'est le moment des lectures de poésie proposées cette fois par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Dans le cadre de notre dernier salon de beauté où l'on cause santé, bien-être, la poésie peut-elle vous aider ? Atteindre la beauté, oui, mais non sans impacter le ressenti interne. Attention, faire de belles choses ne suffit pas. Nous l'avons vu avec Arthur Cravant, notre ami boxeur des dimanches et poète toute la semaine. Même en améliorant la gestion des blocages par une stratégie mentale du geste technique, il ne faut rien céder sur le fragile chemin de la révélation. Comprenez ? Restez exigeant sur la camelote et les expressions crues. Vous allez en voir un exemple. Tiens, prenons L'Abîme, un poème de Jean-Pierre Chambon. Allongé au creux des herbes, la tête à la renverse, j'ai fermé les yeux pour faire cesser la sensation de vertige que provoque toujours en moi la trop vacante immensité du ciel d'été. Et laisser mes paupières filtrer la lueur de mon sang, ma pensée voltiger un instant dans l'air, déviée par le frissonnement des feuilles, la vibration d'un insecte, la dissolution du grain d'un moteur au fond de l'espace. Quand j'ai relevé la tête à travers la résille d'ombre grêle, la voilette impalpable que tramait devant tes yeux le balancement des ombelles, j'ai surpris ton regard empreint d'une expression muette, étrange, dont je ne sus si elle traduisait une douleur enfouie ou une joie secrète. Pour conjurer l'abîme qui nous séparait alors, au milieu de l'étincellement des hautes tiges harcelant le bleu à la dérobée, avec le vent léger, avec ce menu bouquet d'ombre tremblotante et d'un doigt de lumière, j'ai effleuré ton front brut. La poésie, voyez, rien ne l'empêche d'être en prose. Ça reste de la poésie. C'est comme la beauté. Ici, c'est ça qui plaît, puis là-bas, c'est autre chose qui plaît. Mais de savoir où est le beau, ben... Par exemple, l'autre jour, à côté de Lens, à la bibliothèque estaminée de Grenet, un endroit bien connu et couru, j'ai vu une femme qu'elle était assise, marquée par des épreuves de la vie, mais son regard, sa petite fille à côté d'elle, j'aurais pas pu dire qu'elle était en dehors des critères. Une beauté. Un bio-tableau, comme dit Jules Mousseron, à propos de ses petites filles. Elles sont montées d'avance, laissant écrire papa. Oh, les bio-petits-anges, couquet, bouchy, boula. Ravette, maman, ravette. Un ticket de coche plus bio que quand ces trois fillettes dorment en carrément chaud. Un lit est tout plat de chair rose et de cheveux répandus. Chez ta apothéose et de bio-amour joufflu. Le plus tchotte et le plus remuante, à laisser ce berche en plan pour venir avec les grandes juées à s'adormant. En se roulant les chéris comme si je reçus le gazon, elles se seront endormies, la pêle-mêle comme elles sont. L'aînée à douce figure tient d'un air protecteur un bourrelot de couverture qu'elle pince être jetiot de sœur. Et le deuxième élance, il couche à travers complètement, à le sourire à pleine bouche, à moutrant ses bio dents. Oh, mais le plus bio chez le plus petit, qu'elle a l'air satisfait. Il n'y a rien qui l'agite, ce plus belle fleur du bouquet. Toute mince comme une marotte, chérubin du bon Dieu, un ferment chez nos notes, prend du repos tant qu'il peut. Elles sont montées d'avance, laissant écrire papa. Oh, les bio petits anges, couqués, bouchis, boulots.
Merci, Jacques Bonafé. C'était le dernier épisode de votre semaine consacrée à la beauté en poésie.